Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Courtoisie. Les chiffres d'audience officiels nous encouragent à poursuivre sur ce chemin de crête ardu mais excitant. À propos de chemin de crête, ce rendez-vous auquel j'ai le plaisir de vous convier a pour titre Les neiges du Kilimandjaro. Ce n'est pas lié à ceci.
Il voit là-bas, dans le lointain, les neiges du Kilimandjaro.
Chanson de Pascal Naël en 67. Ce n'est pas non plus lié à un film de Robert Guédiguian sorti en 2011. C'est un hommage à mon auteur préféré, Ernest Hemingway, qui avait titré ainsi une de ses nouvelles, dont fut adapté un film avec Gregory Peck et Ava Gardner, magnifique. Phrase superbe que voilà.
Le Kilimandjaro, que les neiges revêtent d'un blanc manteau, est un volcan haut de 5893 mètres. On prétend que c'est la plus haute montagne de l'Afrique. Sur le flanc ouest, près du sommet, se trouve la carcasse congelée et desséchée d'un léopard. Personne n'a su expliquer ce que le léopard cherchait à cette altitude.
Voilà, phrase qui me fait rêver depuis toujours, à savoir pourquoi nous nous dépassons, pourquoi nous allons là où c'est dangereux, là où nous ne devrions pas aller, au risque de notre vie, parfois physiquement, et à des risques moraux, c'est une métaphore aussi. Aujourd'hui, avec nous, il faut parler de tennis. Actualité oblige, Roland-Garros oblige, chaleur aussi. Un acteur important du tennis français depuis plusieurs décennies, Denis Neijlen. Bonjour Denis, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Je vous pose la petite question de base. Hemingway parle du léopard qui a tenté le Kilimandjaro sans succès, au fond. Quel serait, je vous prends au dépourvu, on voulait d'arriver, quel serait le rêve absolu encore pour vous que vous voudriez accomplir dans votre carrière ou humainement ?
Pouvoir être utile en continuant à organiser des événements de tennis.
Tout simplement, donc vous êtes proche du rêve, puisque c'est ce que vous faites.
Oui, c'est ce que je fais, j'essaye, mais c'est toujours plus difficile de se sentir utile.
Oui, c'est vrai. Un rappel pour ceux qui ne le savent pas, j'ai regardé en détail, je me suis amusé, je suis plongé dans les archives de l'ATP pour voir différents matchs que vous aviez faits. J'ai découvert que vous avez joué Villas à Roland-Garros, Guillermo Villas, les gens s'en souviennent.
Oui, bien sûr, oui, j'ai joué Villas au deuxième tour sur le central, je me souviens très bien.
Un souvenir de quel type ? Ému du moment ou déçu de perdre ? Enfin, comment vous l'avez vécu ?
Je m'entendais très bien avec Villas et j'ai continué à m'entendre longtemps avec lui. Il est malade aujourd'hui, donc
ah bon
on se parle moins. Un souvenir d'avoir un peu gâché le moment, parce que j'étais très ému de rentrer sur le central. À cette époque, le central, on descendait par un escalier, c'était tout noir, il n'y avait pas la lumière comme aujourd'hui, un stade magnifique, totalement refait. Il y avait un escalier en bois qui était un peu dans le noir et on poussait la bâche de fond de cours pour rentrer sur le cours. C'était un jour un peu comme aujourd'hui. Il faisait très chaud et beaucoup de lumière et je sortais dans le noir et j'étais tout de suite ébloui. Ébloui me rendant
dans tous les sens du terme.
Oui, ébloui parce que je me rendais pas bien compte de ce qui se passait. En plus, je savais que c'était, je jouais contre un des trois meilleurs joueurs du monde sur terre battue, donc de toute façon, a priori hors de portée, mais on est toujours dans le rêve quand même quand on a ce type de situation. Et voilà, je me souviens de ça, et au début je me rendais pas bien compte où j'étais, je crois que je menais au premier set sans me rendre compte vraiment ce qui se passait, et quand je me suis réveillé, ça a été plus douloureux.
C'est intéressant que vous disiez ça, c'est une question que je me pose toujours. Roland-Garros arrive, 128 joueurs dans le grand tableau, 5 ou 6 rêvent de gagner, mais vous le disiez vous-même, vous l'évoquiez, au fond tout le monde, même si c'est que c'est impossible, se dit « Pourquoi pas moi ?»
Ben oui, parce que c'est... Ben, tous les tournois sont importants, mais quand on est français, jouer sur un grand chelem en France, c'est quand même quelque chose qui est rare. Et donc, quand on fait l'exploit à Roland-Garros, on gagne 10 ans de notoriété.
Exact.
Donc, ça met une pression.
Votre meilleur perf à Roland-Garros, si je ne me trompe pas, c'est un troisième tour. C'est déjà pas mal, dans les 32 meilleurs de l'année.
Ouais.
Je regardais, vous êtes battu par un joueur qui s'appelle Taigan, qui lui-même perd sur Gary Lettice au tour suivant. Vous vous souvenez de tout ça ?
Oui, je me souviens très bien, parce que c'est un match que j'aurais dû gagner.
Vous parlez en 5-7
J'ai eu 3 balles de match, et j'aurais pu vraiment gagner ce match, mais c'est le tennis, et donc j'aurais aimé jouer contre Gary Lettice.
Est-ce que finalement, ce sport n'est pas empli de frustration ? On perd plus souvent qu'on gagne, au fond.
Pour ce qui me concerne, c'est sûr.
Mais tout le temps, on perd chaque semaine. Après, il y a forcément... à part les tout meilleurs, chaque tournoi, il n'y a qu'un joueur qui gagne. On finit la semaine en ayant perdu.
Oui, c'est vrai, mais ça fait partie de ce jeu magnifique qu'est le tennis, qui fait qu'on essaye toujours de gagner un match de plus. Voilà. Et puis, on en perd, mais c'est utile par moment. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé, parce que je me suis rendu compte que dans la vie, on a aussi des échecs, et avoir perdu régulièrement m'a aidé à surpasser ses échecs, parce que chaque fois qu'on perd un match, on se demande pourquoi et comment on fera la prochaine fois pour ne pas le perdre. Et c'est assez important, je pense, comme ligne de vie.
Alors, une fois où vous n'avez pas perdu, c'est à Bordeaux, en double, en 79, vous gagnez le tournoi avec Patrice Dominguez. C'est votre grande victoire en pro.
Oui, c'est une de mes grandes victoires. Mais encore une fois, c'est pas de la modestie, mais j'étais un peu meilleur en double qu'en simple. Et j'étais très ami avec Patrice Dominguez. On vivait un peu ensemble. On avait un appartement commun à la Porte de Saint-Cloud, pas très loin de Roland-Garros. Donc, on s'entraînait beaucoup ensemble. Et puis, Patrice était un vulgarisateur du tennis. Il parlait très, très bien du jeu. Il avait des écoles, ce qu'on appellerait aujourd'hui des académies, et des écoles de tennis, dont je me suis occupé sur le plan du back-office. Et un jour, il disait à un de ses stagiaires, plutôt un stagiaire lui demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour bien jouer en double, quelle est la qualité qu'il faut avoir. Il avait répondu spontanément, il faut bien choisir son partenaire.
Et donc,
je lui avais demandé de jouer avec moi, parce qu'il était le meilleur, il était le numéro un français, et ça m'a beaucoup aidé.
Question un peu touchy, comme on dit maintenant. Donc, en 80, vous êtes dans les 32 meilleurs joueurs à Roland-Garros, c'est formidable. Est-ce que vous gagnez bien votre vie à l'époque avec ça?
Je gagne 150 fois moins que ce que gagnent les joueurs aujourd'hui, mais l'important n'était pas là quand on fait ce métier. Moi, quand je l'ai fait, c'était... je décide à 20 ans seulement de devenir professionnel, et parce que je me rends compte que quelque part je m'ennuie dans mes études, que j'essaye douloureusement de poursuivre d'école d'ingénieur, et j'arrête au bout d'un an et demi et je décide de partir sur le circuit. Donc c'est la passion qui m'anime. Donc j'avais suffisamment d'argent pour vivre, pour payer mon loyer, pour me nourrir, pour voyager. Donc, quand on a 25 ans et qu'on peut se permettre de se dire, tiens, la semaine prochaine, il faut que j'aille jouer à Munich et la semaine d'après à Melbourne, j'avais de quoi me payer le billet, mais difficilement, en raclant et en finissant mal les fins de mois, mais je pouvais le faire. Et quand on a cet âge-là, c'est une chance, je me sentais libre. Voilà.
C'est une belle qualité. Mais inenvisageable à l'époque pour vous d'avoir une équipe, de payer un coach, payer un physio, ce que font beaucoup de joueurs de jusqu'au 50e, 100e mondial, maintenant ils y arrivent.
Vous oui, bien sûr. Et non, totalement inenvisageable. Il y avait une fédération qui était moins structurée qu'aujourd'hui, mais elle l'était, donc on pouvait quand même s'entraîner, avoir l'aide et des conseils de certains entraîneurs de la fédération. Et donc je pense, moi, à Georges Degnaud, à Patrice Beust, à Jean-Paul Lhote, tous ces gens aussi qui, à un moment de ma vie, m'ont accompagné.
Combien de temps, finalement, avez-vous été pro? Combien de saisons, vraiment, avez-vous effectué? 8 ou 9?
Non, j'ai été pro vraiment 10 ans, ça s'est prolongé 2 ans de plus, voilà, une douzaine d'années, de 70 à 82.
D'accord. Ça vous paraît, c'est très vieux, c'est très loin de vous ou pas tant que ça au fond?
Non, c'est pas très loin parce que je reste dans le tennis, donc je revois des lieux que j'ai connus et c'est toujours quand même plaisant de savoir qu'à tel endroit j'ai perdu contre un tel, à tel autre j'ai perdu contre un tel.
Mais allez à Bordeaux, vous avez gagné.
Je devrais aller à Bordeaux, vous avez raison.
Mais vous allez aux curiosités, vous êtes aussi un fan, vous êtes un joueur, vous êtes un organisateur de tournoi, un patron d'événements. Est-ce que vous êtes aussi un simple fan? Est-ce que vous allez voir des matchs pour le plaisir?
Ah oui, bien sûr. Oui, je continue à voir des matchs, mais je les regarde pas de la même façon, je veux dire. Il y a 40 ans, je regardais pour apprendre. Aujourd'hui, je les regarde pour savoir comment le jeu a évolué. Et puis pour comprendre, je regarde beaucoup je regarde beaucoup de matchs de femmes parce que j'ai un événement féminin.
Le plus important en France après Roland-Garros.
Et je suis en charge de ce tournoi. Donc, il est important que je sois souvent sur des tournois féminins, que je rencontre des joueuses, que je rencontre leurs agents, que je rencontre leurs coachs. Et tout ça fait partie d'une partie de ma vie d'aujourd'hui.
Bien sûr, on va y revenir. Juste un dernier mot sur votre carrière de joueur. Le jour où vous mettez la raquette définitivement dans sa housse, est-ce qu'il y a une frustration? Il y a des regrets? Est-ce que vous n'êtes pas allé aussi loin que ce que vous aviez rêvé?
Pas vraiment, non. Je pense que... on peut toujours se dire « tu aurais pu être meilleur ». Si tu avais été plus dur au combat sur le physique à l'époque, ou si tu avais peut-être fait un peu moins la fête, mais je faisais pas tellement la fête, mais ça m'est arrivé. Et j'avais pas de, J'avais un âge où on commence à se blesser, donc le corps vous dit d'arrêter.
Vous arrêtez à 30 ans, en gros?
Oui, j'arrête à 30, 32 ans.
Et comment expliquez-vous que maintenant, c'était le cas à l'époque, hein, Noah s'arrête à 30 ans, Borg à 25, les gens à 30, 31, ils arrêtaient presque tout, sauf Connors qui était le seul. Comment expliquez-vous que autant de joueurs maintenant arrivent à durer 10 ans de plus que ce que vous faisiez à l'époque?
Je pense que c'est parce qu'ils se préparent beaucoup mieux. Parce que la préparation, la diététique, le stretching, les étirements, la façon de travailler son corps est très différente de ce que nous faisions à l'époque, où on faisait surtout de l'endurance et du cardio sur des longueurs, sur de la course, et avec très peu d'étirements à cette époque-là.
Mais tous les jours quand même, c'est quand même du physique tous les jours à l'époque.
Ah oui, oui, c'est du physique tous les jours.
Tous les jours.
Ouais,
des gammes de tennis.
Mais pas bien
structuré.
Je pense qu'aujourd'hui, la différence, c'est que les entraîneurs physiques sont ont une sorte de règle, de science de leur entraînement, ce qu'on n'avait pas.
Nutrition aussi peut-être, on y faisait
moins
attention à l'époque,
ah oui,
voire même pas du tout.
Exactement, on faisait pas très attention. Je me souviens qu'à l'époque, on me disait, avant un match, il faut que tu prennes un steak et une salade. Donc, ce qui est aujourd'hui risible.
Mais là, oui, Djokovic, bien sûr, tout le monde le dit, mais aussi mon fils, mais aussi Manarino, 37 ans, Wawrinka, enfin beaucoup de joueurs arrivent plus loin. Essentiellement, vous pensez dû à l'entraînement, à ce qui se passe autour du tennis.
Oui, à la préparation. Je pense qu'ils font plus attention à leur corps. Pour durer, à l'instant où ils le font pas pour durer, ils le font pour gagner la semaine d'après. Mais la façon dont ils le fait que Djokovic ait été le premier à parler de diététique à ce point-là, à peser ses aliments, à être le premier à faire un régime sans gluten, tout ça a interpellé quand même un peu les autres joueurs. Et ils se sont rendus compte que si le mec est aussi fort, si le mec est aussi bon et qu'il dure encore, c'est peut-être parce qu'il a fait ce qu'il fallait au moment où il fallait le faire.
Alors hélas, il a quitté le tournoi hier après un match en 5-7 contre un des futurs grands, dit-on depuis un moment. On annonce Fonseca comme un des futurs grands, vous le pensez aussi?
Oui, oui, tout à fait. Fonseca fait partie de ceux qui vont dominer le tennis dans un ou deux ans complètement.
Mais le tremblement de terre de la veille a encore plus surpris.
Le numéro 1 mondial doit sauver 3 balles de match. Il a double break contre lui dans ce 5e set. C'est fini. Le numéro 1 mondial est éliminé dès le deuxième tour de Roland Garros par Juan Manuel Cerundolo. Quelle énorme sensation, Alizé, nous venons de vivre. Alors, on va rappeler quand même pour ceux qui nous rejoignent que Sinner menait, mais alors 2-7-0, 6-3, 6-2, 5-1,
5-2, break.
Double break. Ouais. Et que derrière, il n'a plus marqué de jeu quasiment. 2 jeux remportés sur les 20 derniers disputés.
Incroyable. Alcaraz n'est pas là. Tout le monde dit que Sinner est sur la voie royale. Et il perd. Alors, je vous avoue que ça m'a fait presque plaisir. Non pas que j'avais quelque chose contre Sinner, mais pour dire que non, ces gens-là ne sont pas des robots. Et heureusement, le sport n'est pas écrit à l'avance, la preuve.
Oui, vous avez raison. C'est regrettable pour le tournoi, parce que Sinner est le meilleur joueur du monde, sans aucun doute, aujourd'hui. Et c'est dommage qu'il ne puisse pas gagner ce titre qu'il n'a pas.
Ça viendra, il est jeune.
Je pense que ça viendra, mais on ne sait pas. On ne sait pas de quoi sera fait demain, donc
c'est
ça
vrai.
Reste...
En tout cas, comme chaque fois, ce qui m'émerveille, c'est je pense que les gens qui ont inventé le système du comptage des points sont des génies. Parce qu'au tennis, on dit que c'est jamais fini, mais c'est vrai. Au foot, vous menez 3-0, il reste 2 minutes, ça va, vous allez gagner. Au tennis, le temps ne vient pas à votre secours. Il faut finir. 5-1, 2-7-0, mais 5-2, qui peut croire qu'il va perdre? Et il perd quand même, c'est possible.
Bien sûr, c'est possible, c'est les règles du tennis et c'est ce qui fait sa beauté, ce qui fait son charme, ce qui fait sa tristesse par moment,
ses frustrations. Un élastique qui vous revient dans la figure. Vous avez vécu ça, des matchs sur le point de gagner et qu'on finit par...
Ça m'est arrivé, j'ai mené un jour 6-1, 5-0 contre un joueur et j'ai perdu le match.
À quoi vous l'attribuez? C'est lui qui devient grandiose ou c'est vous qui vous liquéfiez un peu?
C'est un peu les deux, c'est souvent un peu les deux, c'est-à-dire que... Le joueur en face n'a plus rien à perdre, il lâche des coups, il est libéré et tout, il fait des coups qu'il ne fait pas d'habitude. Et puis tout d'un coup, quand on en perd 3 de suite, on commence à se poser des questions et on joue de plus en plus mal, voilà, et puis le rapport s'inverse.
La part psychique est invraisemblable dans le tennis, énorme, non, plus qu'ailleurs.
Elle est fondamentale et la préparation mentale l'est de plus en plus. Et il y a de plus en plus de joueuses et de champions et championnes qui se soignent mentalement parce que moi je le vois même dans mon tournoi aujourd'hui, j'ai sur place en permanence un psy Et j'ai une cabine de soins mental.
Encore plus chez les filles, non?
Je ne sais pas si c'est plus chez les filles. En tout cas, il y a une demande des filles qui est évidente, peut-être moins des mecs, mais chez les filles, oui, elles le demandent, la WTA l'exige. Et je trouve ça bien, parce que ça leur permet d'être plus à l'aise, de se sentir mieux, de pouvoir se libérer par la parole, et tant mieux.
Les grands tournois, et le vôtre en fait partie, font vraiment maintenant des choses incroyables pour les joueurs. Ils sont bichonnés beaucoup plus qu'à votre époque.
Ah, ça n'a rien à voir, mais moi j'étais pas un grand joueur. Donc il y avait à cette époque-là une vraie différence entre les bons, les têtes de série et les autres.
Quel est le plus haut rang ATP que vous ayez atteint?
Moi j'ai été 110, 120 par là, et c'était à peu près...
Au niveau d'Hugo Gaston actuellement, en gros, Quentin Alice,
oui,
ces gens-là.
Mais à cette époque... Quand on jouait sur un tournoi, par exemple, en Australie, certains joueurs, les 20 premiers, étaient à l'hôtel et invités par le tournoi, ou peut-être les 30 premiers, et les autres étaient chez l'habitant. Alors, ça n'a rien... Oui, c'était une belle coutume anglo-saxonne, et je la regrette pas du tout, c'était moins confortable. Et donc, quand on a 18, 20 ans, on râle un peu, parce qu'on a l'impression de perdre un peu de sa liberté. Mais en fait, avec du recul, on se rend compte que c'est certainement une des meilleures expériences que j'ai pu avoir dans la formation de ma vie, parce que vous êtes chez des gens différents, tout simplement, et c'est une école de vie exceptionnelle.
Pensiez-vous, à 18-20 ans, que le tennis allait être à ce point central dans votre vie, et même être l'axe de toute votre vie, au fond?
Je ne sais pas si je pensais ça quand j'avais 18 ou 20 ans. J'avais plutôt l'impression ou le sentiment que je devais finir mon année, essayer d'avoir assez de sous et assez des nouveaux contrats pour me payer mon loyer encore 2 ans de suite. Mais je ne pensais pas que ma vie tournerait sur un axe qui est le tennis.
Est-ce que vous êtes fan de sport en général, ou c'était ça uniquement, ou bien vous êtes bon dans d'autres sports, vous avez goûté à autre chose?
J'ai appris très tôt le ski. Et j'aime beaucoup cette discipline. C'est certainement le sport loisir que je préfère. J'ai été très longtemps, on va dire, handicapé après une grave maladie. Et donc, je n'ai pas pu skier pendant 7-8 ans, et pensant que je ne skierais jamais. Et j'ai pu me rendre compte que c'est possible. Donc, je le refais. Et c'est un grand bonheur pour moi, parce que Je suis dehors, je suis dans les montagnes que j'aime, et j'ai l'impression de faire une activité physique qui me fait du bien. Voilà.
Mais sans esprit de compétition, du tout.
Non, j'ai fait de la compétition quand j'étais tout petit, à 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ma maman était monitrice de ski, donc j'ai appris assez vite et assez tôt.
Vous avez passé la flèche, le chamois, quoi.
Oui, bien sûr.
Mieux que ça même.
Oui. Ah, et donc, mais après, je me suis arrêté, parce que quand on est joueur de tennis professionnel, on n'a plus le droit de skier, donc les assurances ne vous couvrent plus, donc il faut faire très attention.
À quel moment vous vous êtes dit, au fait, sans penser à la suite de votre vie, c'est possible, je peux être pro, c'est possible. Il y a beaucoup de jeunes qui en rêvent, 16-17, et qu'est-ce qui fait que ça bascule et que vous dites, eh ben oui, je me lance dans la carrière vraiment?
À ce moment-là, en fait, on est dans les... Moi, je joue dans les années entre 70 et 82, Et c'est le démarrage du professionnalisme, vraiment.
C'est Borg, non? C'est
Borg, c'est Villas, enfin, c'est l'arrivée de l'argent. C'est les promoteurs américains qui s'appellent la Marrant ou autre, qui essayent de créer des circuits parallèles. C'est la création de l'ATP, c'est la création de la WTA. Donc, les joueurs ont un syndicat qui les représente, qui défend les intérêts. Il y a un tour qui se fait. La Fédération internationale de tennis à cette époque essaye de résister, mais pas très longtemps. C'est l'ATP et le Conseil du tennis professionnel, composé de l'ATP, de la WTA et de la Fédération internationale, qui prend le contrôle. Et donc il y a un circuit qui se fait avec environ 40 semaines qui sont programmées, qui sont plus ou moins restées les mêmes, pas toujours. Et ce qui fait que l'argent démarre doucement. Et ce qu'il y a de formidable, moi, ce que j'aime, c'est qu'en fait, dans ce métier, on vaut ce qu'on gagne.
Vous trouvez ?
Oui, quelque part, oui. Parce qu'en tout cas, à cette époque-là, c'était quelque chose... Il fallait gagner pour gagner sa vie.
Est-ce qu'un joueur comme vous, centième mondial environ, ce qui, quand on y pense, c'est quand même incroyable, centième mondial, c'est merveilleux. Est-ce qu'un joueur comme vous aviez à l'époque des sponsors ?
Oui. Moi, j'ai eu de la chance.
Équipementier, quoi, déjà.
J'ai pu avoir... les Français étaient privilégiés. C'était un marché important. Je dirais même qu'un joueur français centième mondial gagnait plus qu'un Américain un centième mondial, ah oui. en termes de contrat. Parce que son marché était plus petit, mais plus en devenir, et beaucoup d'équipementiers, en fait, voulaient pénétrer ce marché. Donc moi, j'ai eu la chance très tôt de trouver des partenaires qui m'ont soutenu, et je pense surtout à LS, une marque italienne de textile, qui vient me chercher alors que j'étais chez un partenaire français, et qui me dit très vite... c'est bien ce que tu nous dis, est-ce que tu peux nous aider à mettre nos vêtements sur les bonnes personnes dans le monde du tennis? et donc je deviens
ambassadeur.
Voilà, je deviens un peu un responsable de promotion tout en étant freelance et en continuant à jouer pour signer des joueurs, des jeunes surtout, des joueuses, des tournois.
Mais ils vous équipent ou ils vous payent carrément?
Non, ils me payent pour faire ce boulot. D'accord. C'est-à-dire ils me payent pour jouer. Je joue encore un peu, à, on va dire 4-5 mois par an. Et le reste du temps, je suis quand même sur le circuit où j'essaye de détecter des bons joueurs. Et voilà, je peux être à l'origine de la signature de Boris Becker avec LS, voilà, parce que c'était... Je faisais partie des deux qui l'ont repéré à Monte-Carlo alors qu'il jouait les juniors sur le court numéro 14.
Ça m'intéresse. Un joueur comme vous, avec une telle expérience, vous voyez un jeune et vous pouvez vous dire, voilà, lui, ça va marcher sans doute.
Non.
Non, c'est plus aléatoire que ça.
Non, j'ai quelques très beaux scores et qui m'ont valu beaucoup de reconnaissance de la part de certaines marques parce que j'avais fait des bons choix. Mais à côté de ça, on fait aussi des erreurs. C'est très difficile. Je veux dire, le tennis, c'est un multiple facteur, il faut avoir de la technique, il faut avoir du mental, il faut avoir du physique et il faut avoir du talent. Et bien le sûr. Talent à 13 ans n'est pas forcément celui qu'on attend à 20 ans, etc. Donc non, c'est un long chemin.
Je me suis amusé à regarder il y a quelques jours la liste des champions du monde junior. Mais... Certains, c'est drôle parce qu'à une époque, certains s'enchaînent et sont tous devenus des grands. Il y a Tulane, il y a Forget, il y a Lendl, bien sûr, ces gens-là. Mais depuis... Champion du monde junior des années 2000-2005, ils sont à peine passés pro, on les a oubliés. Être un très bon junior ne garantit rien.
Non, mais beaucoup sont passés pro plus tôt aussi que ceux d'avant et sont vite passés un peu dans l'anonymat parce que ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est le passage en adulte.
C'est ça.
C'est-à-dire, on peut être très très bon jeune et la diffusion, ça ne promet rien. Ce qu'on sait, c'est que, statistiquement encore, c'est que si on n'est pas dans le top 20 junior... On ne sera jamais dans le top 50 adultes.
D'accord. Mais l'inverse n'est pas vrai. On peut être
junior
et ne pas
réussir. N'est pas vrai.
Il y a des Équatoriens, il y a des gens qu'on n'a jamais revus, qui ont été champions du monde junior, complètement oubliés.
Ouais.
Raoul Viveur, je me souviens de ses noms.
Oui, bien sûr.
Il y en a beaucoup. Ouais. Les films sur le sport sont rarement réussis, mais il y en a un qui était très bien. Est-ce que ça vous parle, Les Chariots de Feu? Un film des années 80 où on voit les coureurs à pied britanniques des années 20.
Sur la plage.
Exactement. Magnifique. Très bonne musique de Vangelis. Ouais. Ça va nous permettre de boire un petit verre. Il fait très chaud sur Roland-Garros et aussi à Radio Courtoisie. Vangelis, c'est la musique des chariots de feu. Pourquoi ? Parce que nous parlons aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, de sport, de tennis. Roland-Garros se joue en ce moment sous une chaleur effrayante et tout près d'ici. Et avec nous pour en parler, de tennis en général, de son parcours, de sa vision de ce sport, Denis Naegelen, à la fois joueur, il a les années 70-80, et maintenant, depuis déjà un certain temps, organisateur, patron de tournoi, le grand tournoi de Strasbourg, international de Strasbourg, le deuxième tournoi en importance, je crois, féminin en France, derrière Roland-Garros, on est bien d'accord.
Ah oui, on est bien loin derrière Roland-Garros, mais on est le premier tournoi 100% féminin en France.
C'est ça.
Donc on est le seul tournoi 500, WTA 500.
Oui, donc, c'est une catégorie, il y a les Grand Chelem, les Master 1000 et ensuite ça.
Voilà, si on considère, et puis ça veut dire 500, ça veut dire qu'on distribue 500 points à la vainqueur. 1000 distribue 1000 points, 250 distribue 250 points au vainqueur. Si on se base sur ces chiffres-là, c'est-à-dire le nombre de points distribués et l'argent distribué pendant le tournoi, les prize money, on est le troisième plus grand tournoi de France après Roland-Garros et le Rolex Paris Master.
C'est bien, bravo. Quel est le budget d'un événement comme celui-ci ?
Il est de l'ordre de 5 millions, un peu plus.
Qui proviennent de sponsors, un peu de collectivités locales aussi.
Ils proviennent de sources extrêmement diversifiées. Ils proviennent de droits télé, de droits du betting. Ils proviennent de la commercialisation des droits des data. Ils proviennent de sponsoring. Ils proviennent de revenus d'hospitalité. Ils proviennent aussi de subventions. Particulièrement les tournois de province sont soutenus généralement par leur collectivité. Ils proviennent de la billetterie aussi. Voilà. Donc tous ces revenus font que c'est presque une approche intéressante. Moi, c'est ce qui me passionne, c'est qu'il faut comprendre une trentaine de métiers pour être organisateur d'un grand tournoi de tennis.
Un grand chelem est sur deux semaines. Les tournois comme le vôtre, c'est une semaine avec un peu de qualif avant. Ouais. C'est pas grand-chose. Mais vous travaillez toute l'année néanmoins. Le tournoi se prépare toute l'année.
Le tournoi se prépare toute l'année, on n'arrête pas. Le tournoi s'est terminé il y a 15 jours. La semaine prochaine, lundi, on repart.
Déjà.
On est 5 personnes permanentes, une centaine avec des alternants et des stagiaires le mois d'avant. Et on est 750 pendant le tournoi.
750 ah ouais, oui. Dont si des bénévoles ou
Non, alors une partie, 150 bénévoles, mais le reste, c'est des prestataires de sécurité, des prestataires des traiteurs, des food courts. Enfin, il y a tous les métiers qui doivent travailler, ceux qui montent les tribunes, les hommes de sécurité. Donc voilà, c'est 750 personnes.
Vous êtes 10 jours avant le début de Roland-Garros, c'est une bonne date puisque les joueuses ont envie de jouer sur terre battue juste avant ou au contraire c'est trop près ?
Bon, c'est les deux en même temps, c'est-à-dire que être la semaine avant Roland-Garros, c'est... Moi quand j'ai racheté ce tournoi en 2010, le tournoi était dans la catégorie 250. Et pour une catégorie 250, être avant Roland-Garros, je crois que c'est une très bonne date parce que si on travaille bien la communication et les promesses faites aux joueuses d'avoir un terrain qui soit une bonne préparation à Roland-Garros, on séduit une très bonne catégorie de joueuses qui sont dans les 30 meilleures joueuses du monde. La difficulté quand on est 500, c'est qu'on a plus d'ambition et qu'on veut avoir des top 10.
C'est vrai.
Et les top 10, aujourd'hui, elles ont un regard qui est différent. Elles ne cherchent pas forcément un tournoi de plus sur Terre, sauf celles qui ont mal joué à Madrid ou à Rome. Celles-ci, elles ont besoin de gagner de la confiance sur Terre et elles vont venir jouer à Strasbourg. Les autres... elles ont une ambition qui est peut-être plus forte, c'est d'aller gagner Roland-Garros. Gagner Roland-Garros, ça veut dire aussi aller au moins en demi-finale. Donc c'est jouer 8 matchs, et puis si elles jouent bien à Rome et aller loin, c'est 7 matchs, et à Madrid c'est 7 matchs. Donc il y a un enchaînement de matchs qui est tel qu'à un moment il faut se reposer pour préparer Roland-Garros.
Donc vous êtes confronté parfois à des forfaits, j'imagine aussi.
Voilà, je suis confronté à des joueuses qui disent « non, je préfère pas jouer cette semaine-là ». Et c'est souvent les top 5. Mais bon, ça m'a pas empêché cette année et l'année dernière d'avoir un super plateau avec 20 joueuses dans les 35 premières du monde.
Ah
et
oui.
Avec Mboko qui est 9e mondial et qui sera une très très grande bientôt, qui a été en finale contre Navarro. Et Navarro qui a été dans les top 10 et qui n'est pas loin de ça, qui a gagné le tournoi cette année. Donc,
ouais. Caroline Garcia a gagné le tournoi il y a quelques années, je crois.
Ouais.
Et peut-être même Alizé Cornet aussi, il me semble.
Ouais, ouais, ouais.
Depuis, moins. Et ça serait bien, non, d'avoir une Française. C'est assez important, toujours, pour le public.
C'est fondamental, surtout quand on est un organisateur de tennis en France. Avoir une Française, c'est ce qui change beaucoup. Cette année, on a bénéficié un peu de l'effet boisson. J'ai réussi à convaincre Loïs de venir jouer parce que Non pas qu'elle fasse partie des meilleures joueuses du monde, mais elle est la Française la plus connue.
Ouais,
parce que depuis son incroyable parcours de 2025, la presse s'est quand même focalisée sur elle. Je crois qu'il n'y a pas eu un article de tennis pendant un an qui parlait de tennis français sans qu'on cite Loïse Boisson. Donc ça en a fait une personne d'une très grande notoriété. Donc moi, ce qui m'intéressait chez elle, c'est qu'elle vienne jouer à Strasbourg. Je suis allé la voir jouer à Madrid, elle a perdu. Je l'ai vue à Rome, elle a perdu. Donc je lui ai simplement dit, c'est Strasbourg où tu gagneras ton premier match sur terre cette année, ce qui a été le cas. Et elle n'est pas allée plus loin, elle a fait deux tours. Et puis elle était prête pour Roland-Garros, mais elle n'a pas assez d'entraînement encore. Je la crois capable de revenir, mais il faut qu'elle continue à jouer, à s'obstiner et à y croire.
C'est vrai que vous pensez qu'un parcours comme le sien l'an dernier, donc demi-finale, on se rappelle, avec trois joueuses dans les 20 meilleures battues, ça ne peut pas être un hasard, elle a forcément ce niveau-là, ou c'est une euphorie de l'instant.
Je suis partagé là-dessus. Mm-hmm. Franchement, je suis partagé parce que j'ai vu dans ma carrière un joueur comme Mark Edmondson, que j'ai battu, moi, sur terre battue,
en Australien,
qui gagne l'Australian Open. Il était 200e. C'était juste incroyable, ça veut dire que pendant 15 jours, il a eu sa période de
la grâce.
De grâce. et donc, je crois à ça. Je crois qu'il y a de temps en temps... alors, est-ce que Loïse, c'était une période de grâce ? Je ne le pense pas. C'était une période où elle continuait à progresser et elle a explosé pendant Roland-Garros. Elle a bénéficié de bonnes circonstances. Elle a su en profiter. Donc, chapeau, bravo.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Ouais. Ça, et puis, je crois, il me semble me souvenir qu'elle a gagné quand même, ton derrière, en gros,
tout à fait.
Ça,
tout
donc,
à fait.
Elle a quand même un peu confirmé, voilà. Déjà.
Ah bah oui, elle est... je ne sais pas si on peut dire ça, mais je pense que elle était 250e avant Roland-Garros en 2025, ou à peu près. Et aujourd'hui, sa place, c'est 35-40e, et elle peut donc reprogresser et aller plus loin.
Expliquez-moi, mais ça, je suppose que vous êtes confronté à ça, comme tous les connaisseurs du tennis, ça fait des années et des années que finalement, au bout de 3-4 jours, au bout de 2 tours, il n'y a plus personne français, sauf épiphénomène quand on a des boissons, là, il reste un joueur français, et ça va bientôt être fini. On a l'impression qu'on se rencontre rétroactivement que Gasquet, Simon, Tsonga, mon fils, c'était énorme, et on a du mal à trouver derrière.
Vous avez raison, mais je voudrais quand même vous dire qu'il reste Diane Paris.
Voilà. Donc, elle était en train de jouer, je ne sais pas si elle a gagné.
Elle a gagné. D'accord. Donc c'est formidable.
Donc elle est en 8e de finale.
Non, mais c'est véritablement un exploit parce que Diane Paris est une joueuse qui. Elle a un mérite que. Enfin, je lui reconnais un mérite énorme. Elle bosse. C'est une bosseuse. Et je suis content qu'elle ait gagné parce que vraiment, elle mérite. Quand on travaille aussi bien. Elle a du talent, vraiment. Elle a un jeu qui est très très varié. Elle sait tout faire et elle a besoin de gagner des matchs comme ça. Je pense que c'était un match très dur. J'espère qu'elle ne sera pas trop éprouvée, mais elle peut gagner d'autres grands matchs comme ça. Anisimova, c'est une grande championne.
Deux fois finaliste de Grand Chelem.
Et il fallait la battre.
Mais j'ai beaucoup de respect pour les grands sportifs. Hein. Il ne s'agit pas de. C'est facile de critiquer derrière son fauteuil, évidemment. Mais c'est un peu juste statistique. Même le tennis français féminin, il y a 10-15 ans. Pierce, Mauresmo, Testu, Allard, beaucoup de filles dans les 20 premières. Et on a l'impression que ça s'est un petit peu effondré quand même. Est-ce qu'il y a une raison logique à ça ou c'est conjoncturel, générationnel ? Par exemple, et j'en termine après, comment expliquez-vous que l'Italie, qui n'existait pas dans le tennis depuis pendant des décennies, brusquement, là j'ai compté, ils sont 8 dans les 30 meilleurs. Est-ce que c'est une politique de la Fédé ? Qu'est-ce qui se passe ?
Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a des talents qui émergent dans une politique de fédération qui est meilleure que celle qu'on a pratiquée. Je ne veux pas critiquer la Fédération française qui, par ailleurs, fait un travail remarquable, mais qui s'est peut-être trompée sur des choix d'aide et n'a pas assez poussé. Et elle vient de s'en rendre compte depuis quelques mois. Les tout petits tournois, les joueuses françaises qui sont assez fortes ou du même niveau que les autres de leur âge à 14-15 ans, ont du mal à passer en catégorie adulte. Alors, c'est difficile pour les joueuses parce que ça veut dire aller gagner ses premiers points sur des 15 000 dollars, sur des 30 000 dollars. Ces tournois étaient essentiellement à l'étranger jusqu'à présent, donc il fallait aller en Tchécoslovaquie, il fallait aller en Amérique du Sud. Ce qui n'est pas facile parce que aujourd'hui, compte tenu des problèmes aussi de sécurité, les parents lâchent pas facilement leur petite fille toute seule sur un circuit avec un entraîneur. Donc tout ça est une approche nouvelle. Et il était important que les joueuses trouvent en France la capacité, la possibilité de jouer des tournois de 15 000, 25 000, 30 000, 50 000 dollars, qui leur donnent l'accès aux points pour après passer en adulte. Donc quand elles ont 15 ans, 16 ans, d'aller jouer. Cette année, j'ai décidé à Strasbourg de créer un 15 000 dollars en préqualification de mon tournoi, pour essayer, d'ici un an ou deux ans, de séduire les meilleurs jeunes du monde pour qu'ils viennent jouer une semaine
un
avant.
Un peu comme les petits as pour les garçons.
Avec des points, c'est pas ça. Pareil. Mmh. Avec de l'argent et des points. D'accord. Donc c'est déjà un tournoi professionnel.
Et comment expliquez-vous que, j'ai encore regardé ça ce matin, sur les 50 premières filles du classement, il y en a 32 ou 33, je crois, qui viennent de l'ancien bloc de l'Est de l'Europe. Comment expliquez-vous leur domination presque écrasante? Mais la plupart, à part des Américaines, plus d'Australiennes, 80% des filles sont des pays de l'Est. Est-ce qu'il y a une raison logique à ça que vous comprenez?
Je ne suis pas certain de connaître la vérité. À mon avis, c'est un problème d'ascenseur social, avant tout.
C'est ça.
Et je pense que pour les parents des pays de l'Est, qui sont pour beaucoup en souffrance, avoir une fille championne de tennis, c'est accéder à la richesse. Mmh. Et c'est peut-être faux. Mais en tout cas, c'est leur perception. Donc, on fait tout pour les aider. Et il y a eu beaucoup de Russes très riches qui ont aidé comme des mécènes ou avec un intéressement derrière, se cacher pour se dire je vais être l'agent quand elle sera forte, mais qui donnait de l'argent pour aider les structures d'entraînement des meilleurs Russes, Tchèques en particulier. Donc, envie de s'en sortir par le sport est quelque chose qui est extrêmement motivant pour elle.
Oui, j'imagine, mais c'est encore plus vrai chez les filles, hein, d'après les chiffres statistiques des joueurs. Hein, c'est très frappant, mais c'est une bonne analyse, je pense. Oui. Et côté français, ben voilà, mon modèle, si j'ose dire, c'est l'Italie, un pays comme le nôtre et qui réussit quelque chose de fou. Qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous en ce moment? Vous l'avez dit, un peu une petite différente de la Fédé, mais 8 dans les 30, ça fait rêver quand même. Hein.
Oui, en France, on a un tournoi immense, il s'appelle Roland-Garros, vous le savez. Et peut-être que c'est, je dirais pas l'arbre qui a caché la forêt, mais quelque part on peut utiliser ce terme-là. C'est-à-dire que la fédération ne se préoccupe pas beaucoup des autres tournois, alors qu'ils ont une capacité à être des outils promotionnels dans leur région, exceptionnels, et à condition de bien les organiser.
Mais il y en a plusieurs quand même, chez les garçons en tout cas.
Il y en a beaucoup chez les garçons.
Metz.
Et la fédération a considéré que parce qu'ils étaient pour la plupart dans les mains d'une entreprise privée, la plupart du temps d'anciens joueurs, eh bien, elles n'avaient pas la même qualité que si ça avait été une association de bénévoles. Ce qui est pour moi une énorme stupidité et hypocrisie. Mais c'est le cas aujourd'hui, donc moi je respecte les choix de la fédération, c'est tout, j'ai pas d'autre chose. Voilà.
J'ai lu dans une interview où vous disiez cette année en 26, vous êtes passé en catégorie 500 il y a deux ans, donc vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est un upgrade comme on dit maintenant, avec des meilleurs joueurs, mais des meilleures joueuses, mais aussi des frais différents. Financièrement, deux années plus difficiles, et là maintenant, vous êtes à l'équilibre cette fois, après avoir deux exercices un peu compliqués.
Oui, effectivement, j'ai beaucoup hésité avant de passer en 500. Moi, ce qui m'a poussé, c'est véritablement d'être à la tête d'un tournoi le plus fort possible, et pas celui qui me permettrait de gagner un peu de sous. C'était pas ça du tout ce qui m'intéressait. On serait resté 250, on aurait eu beaucoup moins de difficultés financières et on aurait été tout de suite profitable. Non, passer en 500, c'était simplement faire 100% de croissance en un an, ce qui en termes de revenus, ce qui est pour la plupart des entreprises en dehors de celles des bulles high-tech, impossible.
Bien sûr.
Donc on savait qu'il faudrait 2 à 4 ans pour digérer. Là, on est à la troisième année et on commence à digérer le 500. Donc on a perdu de l'argent en 24, on a perdu de l'argent en 25 et on va être à l'équilibre en 26. Et voilà, je pense qu'on va continuer notre développement en devenant encore plus fort et en ouvrant encore notre événement au plus grand nombre.
Est-ce qu'on donne des garanties aux joueuses, en dehors du prize money affecté à leur performance?
Ça dépend des tournois et ça dépend de la catégorie des tournois. Un grand chelem ne donne pas de garantie. Les joueuses et les joueurs viennent pour
se battre pour venir.
Et puis parce qu'il y a énormément d'argent, de toute façon. Dans les 1000, on ne donne pas de garantie. Enfin, et certains l'ont fait pour avoir le meilleur du monde, qui n'était pas, même si c'était obligatoire, ils trouvaient toujours une excuse pour ne pas le faire. Quand on est 500, le système des accords commerciaux avec certains joueurs existe toujours. Personnellement, je l'ai utilisé, j'ai jamais caché que je le ferais, mais il faut avoir le moyen de le faire. Vous savez, les joueuses sont très chères. en tout cas, celles qu'on vise, les top 3. Donc, on va dire que 95% de mes deals sont enfin, de mes joueuses, c'est, ou 99% de mes joueuses, c'est hors contrat. Elles jouent pour les price money.
Dernier mot sur l'argent. Que pensez-vous du mouvement, du petit mouvement qui s'est un petit peu dressé ces jours-ci des joueurs exigeant une part plus importante du revenu du tournoi, Roland Garros, redistribué aux joueurs? Ça vous semble légitime?
Absolument pas. Je pense que je ne connais pas de métier. Maintenant, je travaille dans une vie normale, on va dire, d'entrepreneur depuis 40 ou 50 ans, où on gagne 10%, 15%, 20% de plus chaque année, sans que ça change. Donc, et vouloir maintenant avoir 50%, je trouve ça pas moral.
Ils disent, je crois, surtout que c'est 15% des revenus qui seraient redistribués aux joueurs, disent-ils. Il me semble que c'est ça le chiffre qu'ils annoncent.
Peut-être que leur demande d'il y a 2-3 ans d'avoir une participation sur les droits de télé était fondée. Elle n'a pas été reçue. Peut-être que ça a créé un peu de vexation. Et aujourd'hui, les joueurs et les joueuses qui s'y mènent ce combat disent que c'est pour le 300e ou le 400e mondial. Peut-être.
Qui ne gagne pas sa vie, c'est sûr.
C'est pas tout à fait vrai, mais il gagne. Ça dépend ce qu'on entend par gagner sa vie.
Au foot, par exemple. 20 clubs pro
oui,
en France.
Oui, d'accord, mais
il gagne 300 000
joueurs moyens. Faut-il se comparer au foot?
Non, mais je veux dire qu'être 200e mondial dans un sport, c'est extraordinaire.
Vous avez raison.
Le 200e footballeur français gagne plus que le 200e tennisman mondial.
Oui, on est d'accord. On est d'accord. Bon, à ce niveau-là, les choses sont très différentes. Un joueur de foot, c'est un salarié. Un joueur de football, un joueur de tennis, c'est un indépendant.
C'est vrai.
Donc, il a besoin, forcément, pour augmenter ou faire plier ceux qui donnent l'argent, c'est-à-dire les organisateurs de tournois, il a besoin d'être uni, donc il a besoin d'être syndiqué d'une certaine façon. On appelle ça comme on veut, mais c'est à peu près le même principe. Donc, mais à ce stade, pour répondre à votre question, sur est-ce que je trouve ça bien et normal, cette volonté de mener par Sabalenka, Djokovic et tout, de vouloir toujours gagner plus, me paraît pas moral, très clairement.
Ben vous êtes très
Quand
clair.
On gagne autant de millions, on se doit d'avoir un peu de décence.
D'accord. Message reçu. Un domaine où on est bon en France dans le tennis depuis longtemps, un peu moins maintenant, c'est la Coupe Davis. Vous vous souvenez de ce grand moment en 1991? Jean-Paul Loth, toujours si serein, qui pour une fois vocifère un peu aux commentaires. C'est la finale de la Coupe Davis 91 à Lyon. Comme le dit une fois Forget, tout le monde lui dit maintenant, moi j'étais là, j'ai vu, je me souviens, on n'a pas gagné la Coupe pendant, je crois, 49 ans, depuis 32, ou 59 ans même. Est-ce que vous étiez allé voir cette finale, vous, par
bien
exemple
sûr, oui,
vous
bien
étiez
sûr.
Là-bas?
Moi, je reste fidèle à l'idée des équipes de France. Et quand elles jouent en France, en Coupe Davis ou en Fed Cup, ou en Billie Jean King Cup, puisque ça s'appelle comme ça, je suis là. Et je fais tout pour arranger mon agenda, pour soutenir les équipes de France. Donc oui, j'étais à Lyon. C'était un souvenir exceptionnel, qui reste plein d'émotions pour moi et pour tous ceux qui l'ont vécu, parce que c'était 3 jours de folie, parce que on s'y attendait pas. Et parce que c'était un hommage à Philippe Châtrier, qui n'était plus président, je crois, ou qui l'était encore, peu importe, mais en tout cas, qui nous avait toujours poussé à gagner la Coupe Davis.
Oui, rappelons que la France l'a gagné plusieurs fois de suite dans les années 20-30, mais à l'époque, il n'y avait qu'un match, souvent. On affrontait le vainqueur, c'était ce qu'on appelait le challenge round, donc il n'y avait qu'un match à gagner, il fallait le faire.
Ouais.
Ça a changé depuis, donc depuis le groupe mondial, et en 91, après 59 ans d'attente, donc les Français gagnent, et enfin, ils ne sont que deux joueurs à faire cette finale, c'est Forget et Lecomte. Lecomte était à l'époque blessé peu de temps avant, il revient du néant pour faire un exploit incroyable. Écoutez, un bref instant, ça a été tourné il n'y a pas très longtemps, et c'est nos deux garçons, Forget et Lecomte, qui racontent un souvenir très précis. Je rappelle le contexte. Forget, à l'époque, est le numéro 1 français de loin, il est 6e mondial. Il perd contre Agassiz, et on espérait qu'il gagne, et c'est Lecomte qui va devoir affronter Sampras. L'affaire semble mal engagée, mais écoutez plutôt.
Au moment dans les vestiaires, Patrice Gelauer me dit, écoute Guy, t'as pas la tête abattue, tu rends ta tête haute. Henri, il faut pas qu'il sente la déception chez toi. Il y a un grand match à jouer maintenant, on reste positif. Je tape sur l'épaule d'Henri, je lui dis écoute, ah merde, désolé, Et puis il me dit oh, t'inquiète, t'inquiète.
Je rentre dans les vestiaires, je m'en souviens encore. Il s'allonge sur la table de massage. Il est comme ça. Et moi, je suis là, je me prépare. Oui, bon, on y va. Je vais le voir, je mets la main sur l'épaule. Je dis, Guy, ne t'inquiète pas. Je lui mets une branlée à l'autre et on va revenir, ça fera un partout. Et là, je vois la tête de Guy. Il me regarde, il dit rien. Mais je vois que dans ses yeux, il dit, le mec est fou.
Au moment où il va partir sur le terrain, je lui dis, allez Henri, c'est à toi maintenant, tu peux le faire. Et là, il fait cette sortie mythique et il dit, vous allez voir les gars, il va voir qui c'est Henri Lecomte, parce que moi, je vais lui faire ci, je vais lui faire ça, et puis je vais lui faire la volée en m'en sautant, et je vais lui faire le passing de doigts, et puis machin, et ouais, les gars, là. Et il part sur le terrain en hurlant.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et c'était les voix de Guy Forget et Henri Lecomte qui racontent des années après ce moment incroyable, cette personnalité assez flamboyante de Lecomte. On ne se rend pas compte de l'exploit pour quelqu'un qui revenait de blessure, qui était, je crois, 160e descendu et qui bat Sampras, qui est Sampras quand même. C'est le plaisir de l'équipe, la galvanisation de l'équipe.
Ouais, c'est la magie qu'a su mettre en place Yannick Noah. Ce mec a un talent pour fédérer, pour emmener avec lui, et comme personne. Et il a su convaincre Henri Lecomte qui était dans le trou, en lui expliquant que lui seul pouvait battre un des meilleurs joueurs du monde américain, et qu'il fallait qu'il bosse, il fallait qu'il se remette au travail. Et il l'a aidé, et l'autre y a cru, et il l'a fait.
Et il l'a vraiment fait, c'était incroyable. 1-3-7, il me semble me souvenir, dans un état second, après il gagne le double aussi avec Forget, ouais. Qui était à l'époque un garçon stable, le meilleur. Mais c'est vrai que ce qu'on a retenu, enfin vous, différent, vous êtes un vrai pro du tennis, mais pour un fan simple, ce qu'on a retenu effectivement, c'est Lecomte. Magnifique Forget, mais cette espèce de folie qu'il y avait chez Lecomte qui a marqué tout le monde, je trouve.
Lecomte, c'était un des plus grands talents de l'histoire du tennis. Il n'a pas su complètement structurer son jeu de façon régulière. Il avait tout. Pour les Anglais, Lecomte est un dieu vivant, plus que pour les Français, parce qu'ils le voyaient jouer à Wimbledon sur gazon, où c'était d'une limpidité, d'une simplicité, d'un talent absolument exceptionnel. Et donc, c'est amusant, parce que Lecomte, je dirais, est plus respecté chez les anglo-saxons que chez les Français. Chez les Français, beaucoup pensent que ces mots malheureux après sa finale perdue contre Villander lui ont coûté beaucoup en termes de réputation et tout, mais tout ça, ça n'a pas de sens. Ce qui est le sens, c'était ce qu'on faisait sur le court, et Henri était un génie.
Et oui, il faisait rêver. Ouais. Vrai. Et vous-même, en tant que joueur et fan, pendant ce match, vous vous disiez que c'est possible, ou vous étiez raisonnable, vous disiez non, on ne va pas y arriver, c'est pas...
Moi, je pensais que c'était possible. Il y avait une dynamique, il y avait une dynamique dans cette salle qui était absolument incroyable. Et c'était vraiment quelque chose d'unique. J'ai un souvenir qu'on peut pas oublier. Donc, ça fait partie des grands moments de ma vie.
Denis Neijden, vous avez joué par équipe pour la France?
Non. Je fais partie de. C'est un peu pitoyable, je fais partie de ceux qui ont été sélectionnés pendant 2 heures en Coupe Davis.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'un jour, je m'entraîne, c'était à l'époque où la France jouait contre le Portugal, et puis il y avait la guerre des œillets, où là...
Oui, 74.
Et donc, les joueurs français disaient, je joue pas. Et puis Philippe Châtrier, pour des raisons politiques, voulait que les Français jouent et aillent jouer au Portugal. Donc moi, à ce moment-là, je pars à l'entraînement à Roland-Garros, et je suis pas du tout dans ceux qui ont l'ambition, enfin, ou je fais pas partie des 4 meilleurs, donc je suis, voilà. Et je souhaite être 7e à l'époque français, et je passe devant le bureau de Pierre Darmon, qui était à l'entrée des vestiaires de Roland-Garros à cette époque.
Il est capitaine de l'équipe.
Capitaine de l'équipe, et Pierre sort de la, et vient me voir au vestiaire en me disant, écoute, François Geoffrey veut pas jouer, il dit qu'il est blessé, qu'il s'est blessé ce matin.
Le numéro 1 à l'époque.
Numéro 1 français. Donc j'ai une équipe un peu pas très solide. Est-ce que toi tu accepterais de jouer? Je lui dis, mais Pierre, bien sûr que j'accepterais de jouer. Et donc je pars m'entraîner. Au bout de 2 heures, je vais jouer sur un des cours du fond qui ont été changés de numéro depuis. Ça devait être le 7, le 8 ou je sais pas quoi. Et je vois Pierre revenir au bout de 2 heures et me voir et me dit, écoute, il faut que je te parle. Alors je lui dis, écoute, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il me dit, j'ai eu François Geoffrey, je sais qu'il est blessé. mais il veut pas te laisser sa place. Donc il a décidé, je peux pas non plus de pas le mettre dans l'équipe. Donc voilà, donc tu n'es plus dans l'équipe. Donc voilà, j'ai été sélectionné pendant 2 heures.
Ah oui, un peu rageant, une petite amertume quand même.
Bon, c'est pas officiel tout ça ouais. C'est fait derrière, mais non, pas une amertume, parce que je n'étais pas légitime pour être vraiment dans les meilleurs à ce moment-là, pour représenter la France, mais c'est vrai que...
François Geoffrey, Troisi,
je le dis en plaisantant, est-ce que vous avez été sélectionné en Coupe Davis? Oui, 2 heures.
C'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans les... Oui, c'est Barthez, peut-être Dominguez?
Non, il y avait Dominguez, il y avait Goven, il y avait Geoffrey, il y avait Troisi. Voilà,
c'est pas mal tout ça, c'est juste derrière vous.
Ouais, ça c'est l'époque.
Oui, d'accord. Et ils ont gagné ce match contre le Portugal, oui,
j'imagine. Ils ont gagné contre le Portugal, oui. Ouais.
Et si vous aviez été là, vous auriez gagné quand même sans doute aussi, mais bon,
je sais pas.
On pourra jamais le savoir.
Non.
Comment expliquez-vous qu'on a été aussi bon? Vous voyez, c'est l'effet Noah pour vous? Vraiment, ça a duré quand même. Hein.
Ah oui, c'est avant tout l'effet Noah pour moi. Mm-hmm. C'est, y a eu plusieurs essais. Il y a eu Grenoble aussi contre les États-Unis où on avait perdu, et puis il y a Lyon en 91. Et puis il faut pas oublier, parce qu'on l'oublie un peu vite parce que c'était loin de nous, mais la France a regagné la Coupe Davis avec Arnaud Böttcher en 96
bien
à
sûr,
Malmö.
En Suède, oui. Ils sont des balles de match.
En chevant des balles de match contre Kulti, un match incroyable aussi. Alors ça a moins bouleversé parce que c'était loin, mais c'était une rencontre incroyable.
Et puis en Australie aussi avec Escudé qui gagne ses deux
là,
matchs.
Je l'ai pas connu et tout, et c'était
là,
déjà
une troisième fois.
Et puis c'est déjà une génération qui est, il y a un saut de génération pour moi, mais je suis ça avec passion quand même. Mais le décalage horaire avec l'Australie fait qu'on n'était pas dans la même passion, dans la même émotion.
C'est vrai.
Ouais.
On était très bien jusqu'en 2017, je crois, et depuis ça fait 4 ou 5 ou 6 ans qu'on n'y arrive plus. Enfin, on passe plus, on n'y arrive plus.
Ben
le format a changé, hein, c'est triste.
On a été en finale à Lille.
Voilà.
Et c'était aussi un grand moment, et puis ça s'est pas fait, et puis on avait une époque où il y avait 4 top 10 français,
énorme.
Presque, donc c'était énorme. Là vraiment, la France aurait mérité de gagner, mais il y avait trop, mon analyse elle est simple, il y avait trop d'individualité.
D'accord.
Et personne n'a jamais su vraiment faire une équipe complètement dédiée.
On a failli à une finale, je me souviens, il y a contre les Suisses, 2014. Et après, je me souviens d'Arnaud Clément qui gagne le double contre les Serbes, mais on ne gagne pas à la finale quand même. Mais enfin, maintenant, alors, un mot sur la Coupe Davis, dont le format a changé. Les traditionnalistes dont je suis, j'avoue, n'aiment pas du tout ce nouveau format. Il n'y a plus les matchs aller-retour, il n'y a plus les 5-7. C'est devenu une espèce d'attraction un peu subalterne. Est-ce que vous pensez que c'est inéluctable et que le tennis doit se moderniser, doit changer, et qu'on ne peut pas respecter sans cesse la tradition séculaire?
Moi, je pense qu'il faut respecter les traditions, mais la façon dont a été transformée la Coupe Davis est pathétique et pitoyable. La responsabilité, pour moi, elle vient de la Fédération internationale, bien sûr, mais de son incapacité à fédérer les grands chelems. Les seuls qui auraient pu défendre la tradition parce qu'ils avaient les moyens financiers
Comment
de le faire...
Comment
En s'unissant et en mettant chacun de l'argent pour dire la Coupe Davis, ça doit continuer à exister.
Ah, d'accord.
Et ça n'a pas été fait parce que les grands chelems sont puissants, mais ils sont pas forcément unis. On a toujours l'impression, les 4 grands chelems, mais c'est une bagarre permanente pour savoir celui qui aura la plus grosse quand même en permanence.
Mmh.
Donc, ils n'ont pas réussi à s'entendre et c'est dommage parce que la Coupe Davis aurait pu continuer avec même son format ancien, quelques adaptations. Mais ça faisait partie de la différence. Et je trouve que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des événements différents. Et les Lever's Cup sont des pâles copies. Elles sont des copies avec de l'argent, mais des pâles copies. Mais il y a quelque chose à trouver autour des nations. Il me semble que le sport est un outil de fédération des peuples absolument incroyable. Et les événements par équipe doivent continuer à soutenir et à aider ce type de réunion des peuples, de l'émotion, etc.
Mais en dehors des par équipes, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution dont on parle régulièrement? Ça revient sans arrêt, puis ça repart, de l'évolution des règles, notamment supprimer les 2 balles au service, supprimer le let, raccourcir le jeu parce qu'on pense que ce n'est plus adapté au monde moderne, c'est trop long, le paddle est en train de prendre le pas au niveau des amateurs, certains, il y a aussi les matchs organisés par Morat Toglouz, un format très très bizarre. Vous pensez que c'est sain, que le tennis doit s'observer, doit évoluer?
C'est beaucoup de conneries pour moi.
C'est très clair, c'est l'avantage avec vous.
Non, je pense que inventer des nouvelles règles de tennis est fort parce qu'il s'appuie sur une tradition longue. Alors c'est vrai qu'il y a des changements, il y a la télévision, il y a tout ce qu'on veut, mais vous croyez que les... J'ai écouté ce matin le match de Kwame a fait 6 millions de téléspectateurs. Mm-hmm. C'est un match de deuxième tour de Roland-Garros et qui fait 6 millions de téléspectateurs. Et vous pensez qu'à un moment, les téléspectateurs se sont dit « Non, mais ce tennis, il faut le changer ». Ça n'existe pas, pas du tout. Ils ont trouvé ça passionnant. Cette règle du fait que on sait jamais qui va gagner. Vous êtes à 5 partout au 5e, vous savez pas, et vous êtes, on joue pas à la montre, on joue, chacun peut encore gagner, chacun peut perdre. Et donc, ce suspense-là, ben, c'est les règles du tennis. Pourquoi donc, vouloir absolument les changer?
Denis Nechten, donc, nous dit, les règles ne doivent pas changer.
Je dis que, sur le service, on peut s'adapter.
De quelle manière ?
Bah, le fait que... Je pense qu'il faut, d'une certaine façon, raccourcir le jeu. Je crois qu'il ne faut pas faire des tie-breaks trop longs, mais d'accord. Il faut qu'il existe un tie-break et qu'il ne soit pas tronqué par le fait qu'on joue qu'un seul service, alors que c'est sur le deuxième service qu'on voit la force des caractères.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quelle mesure, alors ?
Bah, il faut trouver... Moi, je ne changerai rien. Sur les grands chelems, j'aurais, compte tenu de ce que je vois cette année à Roland-Garros, mais compte tenu aussi d'une période caniculaire exceptionnelle, je m'interroge quand même sur le devenir de ce type de situation.
Du format en 5-7, vous voulez dire ?
Le format en 5-7 sur 5 heures est quelque part inhumain. Il y a un truc, quand je regardais un match, je ne sais plus lequel, où le joueur...
Mensik, le tchèque.
Mensik, qui ne peut même plus se relever, qu'on sort du court sur une chaise roulante, ça me fait mal.
Mais paradoxalement, vous avez vu que certaines femmes envisagent, notamment Sabalenka, de jouer en 5-7, elles
aussi.
Parce
qu'elle peut jouer 5-7, elle sait qu'elle va encore plus les écraser, c'est pour ça, mais ça n'a pas de sens.
Non, je pense
que ça ne me choquerait pas que même les tournois du Grand Chelem chez les hommes se jouent en 3-7. Hein.
Même la finale ?
Bon, ben, la finale, s'il faut, on la fait en, ou même les demi, la finale en 5-7, bien sûr. Mais je trouve...
Ça a été le cas que... parfois d'ailleurs, hein. Il y a une époque où les premiers tours se jouaient en 3-7,
ouais,
je pense que vous avez joué d'ailleurs cette époque-là.
Ouais, moi j'ai joué en tout cas en 5-7.
Mmh.
Ouais. Oui, mais peut-être pas les... Peut-être que certains premiers tours j'ai joué en 3-7, c'est possible. Ouais. Écoutez, je suis partagé. Je dirais que je ne suis pas revendicatif là-dessus, mais... Quand même, je crois qu'il ne faut pas pousser trop loin. Les joueurs sont des athlètes. On ne demande à aucun sport d'enchaîner 5 heures.
Tous les deux jours.
Tous les deux jours. Il faut y réfléchir à ça. Quel est le sport
physiologiquement, oui.
qui vous demande de jouer 5 heures tous les deux jours ?
Ah ben, 5 heures, un marathonien ne recommence pas 3
voilà,
jours après.
On est d'accord. Mmh. Un marathonien, joueur de foot, quand il joue deux fois dans la semaine, il dit qu'il est fatigué déjà. Donc, tout ça est pour moi quelque chose sur lequel on doit réfléchir. Et donc c'est ces aspects-là qui sont physiologiques, qui sont liés à la santé et des athlètes sur lesquels il faut faire évoluer les choses. Les télés, elles s'adapteront, je ne suis pas très inquiet.
Et sans parler du haut niveau, en parlant du sport tennis en général, j'ai le sentiment, je me trompe peut-être, qu'il y a moins de gens qu'avant qui jouent au tennis. Dans tous les villages de France, à une époque, on a construit des courts flambant neufs. On en voit souvent qui sont un peu vides. Le paddle donne des vrais coups de boutoir. On a l'impression que le monde moderne, le monde des réseaux sociaux, le monde de la versatilité, du changement rapide, a envie d'un jeu un peu différent, moins traditionnel, moins long, qui demande moins d'apprentissage que le tennis. Est-ce que vous pensez que le tennis est menacé par ça ?
Certainement. Certainement, la pratique baisse. Les licenciés augmentent parce que la fédération fait du bon boulot. Et qu'elle a su ramener au sein de sa fédération le paddle, le pickleball... Et bientôt, probablement, encore un autre sport pour le quatrième âge.
Ah, ils sont inclus dans la fédération de tennis ?
Oui.
D'accord.
Donc, quand vous prenez une licence de padel, mais vous pouvez avoir une licence que de padel, mais c'est une licence de tennis. Vous êtes licencié à la Fédération Française de Tennis. Le padel est un sport sympa. Je ne le joue pas, donc je ne peux pas avoir d'avis extrêmement précis là-dessus. Ce que je ressens, c'est qu'il a une vraie fonction dans les clubs pour fidéliser les membres, parce qu'il est plus ludique, parce que d'abord il est plus facile. Pour jouer au tennis, on a oublié qu'il fallait être capable, pour s'amuser, pour prendre un peu de plaisir au tennis, il faut être capable de faire des échanges.
Bien sûr.
Des échanges assez longs, et après de pouvoir construire des points, etc. Pour arriver à ça, il faut de la technique. Il faut avoir pris des leçons régulières. Enfin, certains y arrivent sans leçons, mais sont rares. Il y a un apprentissage qui est long, je dirais qu'il faut 2 ans avant d'être capable de prendre du plaisir sur un court de tennis. Au padel, en 2 heures de padel, vous vous amusez.
Donc c'est adapté à la volonté consommatrice actuelle.
Tout à fait. En plus, il y a une autre raison qui est, à mon avis, fondamentale dans la vie des clubs. Le padel, il se joue en double, donc vous êtes 4. À mon époque, je me souviens très bien que même quand j'avais 17 ou 15 ans, quand on jouait même un entraînement la semaine avec des gens du club, ben quand on les battait, on allait leur offrir un coup à boire. Ça faisait partie des règles du fair play du tennis. Et bien sûr, aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais quand on est au padel, on est 4. Ça veut dire qu'on arrive à consommer plus facilement autour du bar. Ça fait vivre, le bar, ça fait vivre un club. C'est la vie sociale du club. Et le fait que de plus en plus de gens qui jouent au tennis arrivent habillés en tenue et repartent sans s'être douchés dans le club pour se doucher chez eux, ne participent pas à la vie sociale du club de tennis. Donc le padel a quelque chose d'intéressant pour moi pour ça.
Je comprends. Denis Nagel est avec nous, on parle de tennis, notamment de tennis féminin, puisqu'il est le patron de ce grand tournoi à Strasbourg qui vient de s'achever il y a à peine quelques jours. Votre rêve, ça serait de voir une numéro 1 mondiale gagner chez vous ?
Oui, bien sûr. Mon rêve, c'est que ce tournoi présente au public de la région les meilleures joueuses du monde. Donc, j'ai eu la chance, parce que ça faisait partie de mes engagements, c'était pas que de la chance, c'était... j'ai cassé ma tirelire à cette époque, quand j'ai racheté le tournoi en 2010, j'avais promis de changer la réputation. Et j'avais fait venir... en fait, je voulais que Serena Williams ou que Sharapova viennent jouer. Je n'ai pas réussi à convaincre Serena Williams, mais j'ai réussi à convaincre Sharapova. Elle n'était pas la numéro 1 mondiale à cette époque, mais elle était la plus bankable, comme je peux me permettre.
Et est-ce qu'elle a gagné ?
Et elle a gagné le tournoi, ce qui a changé la réputation de l'événement. Ça a changé le regard des gens locaux, des sponsors locaux, des télévisions. L'année d'avant, le tournoi avait été diffusé par France 3 Régions et en finale. Et avec Sharapova, j'ai eu 4 pays déjà qui ont diffusé la finale. Donc ça a changé le regard extérieur des médias, ça a changé le regard des joueuses. Vous savez, les joueuses, elles se parlent pas toutes comme des copines, mais elles sont dans des vestiaires. À l'époque, le tournoi en face, c'était à Varsovie. Et dans tous les tournois, dans les vestiaires, vous avez les résultats de ce qui se passe dans tous les tournois du monde.
Bien sûr.
Maintenant, c'est en digital, donc c'est plus facile. Et donc, j'ai su, parce que beaucoup me l'ont dit, et les joueuses se demandaient, mais que fait Sharapova à Strasbourg ? Pourquoi joue-t-elle là-bas ?
D'accord.
Et donc, ils ont compris qu'il y avait un nouvel organisateur, qu'il y avait une nouvelle ambition, et tout ça m'a aidé.
Les énormes stars comme celle-là, vous les contactez via un agent, forcément, ou vous avez un contact direct ?
Non, je me refuse à avoir un contact direct. Ah. Je trouve que c'est pas... je préfère avoir un intermédiaire.
Donc son agent.
Son agent, voilà. Par moment, son coach. J'ai beaucoup plus de plaisir à parler au coach aussi. Et souvent, j'essaye d'avoir les deux. Parce que le coach est partie prenante dans la décision du calendrier. Donc, leur faire comprendre que j'utilise la même terre que Roland Garros, que j'utilise la même...
Ça, c'est réel ? Ça paraît un détail pour un profane.
Ah ben, écoutez,
ça ne l'est pas ?
En Alsace, la plupart des courses ont de la terre qui vient d'Allemagne, qui est une terre un peu plus grosse, qui glisse un peu, qui est plus intéressante sur le plan de l'usage, parce qu'il est... Il draine, la pluie s'évacue beaucoup plus facilement, donc il a de l'intérêt pour un club. Mais c'est pas la même terre. Moi, je voulais que ça soit la meilleure préparation à Roland-Garros. Donc, j'ai acheté la même terre que celle des carrières qui fournissent Roland-Garros. Même le calcaire qui est en dessous, ce qu'on ne voit pas, vient des mêmes calcaires de Roland-Garros. J'ai engagé l'ancien jardinier de Roland-Garros pour qu'il vienne
Vous êtes allé loin.
Pour qu'il vienne former mes équipes à Strasbourg, pour que ça soit les mêmes cours, et je voulais que mon discours soit crédible. Strasbourg est la meilleure préparation pour vous, les joueuses. Venez là, et une joueuse se rend compte de la différence de glissade qu'il y a entre différentes terres. Donc c'est pour moi très important. Et puis je suis allé pousser un peu le bouchon un peu plus loin, parce que bien sûr j'utilise les mêmes balles que celles utilisées à Roland-Garros, mais j'exige qu'elles soient de la même fabrication en termes de semaine. Moi j'ai eu la chance de travailler comme conseiller technique pour Dunlop pendant 10 ans. Donc, je suis souvent allé dans les usines de fabrication.
Vous êtes libre, le tournoi peut décider de quelles balles il utilise.
Il peut les utiliser, mais il serait stupide de ne pas jouer, de ne pas utiliser les balles du tournoi, du Grand Chelem qui est après.
Bien sûr.
Donc, mais la question, c'est est-ce que ce sont les mêmes ? Il faut savoir, sur le plan tout à fait technique, qu'une balle que vous mettez, que vous fabriquez le 1er janvier, que vous mettez sous vide, elle a un rebond qui peut être variable 15 jours après et qui va être encore plus variable 6 mois après. Pourtant, elle est sous vide, vous ouvrez une bouteille, une boîte.
Vraiment.
Et donc, oui, il y a une perdition légère et elle reste homologuée hein, totalement. Mais une homologation se situe sur un rebond d'une balle sous vide qui rebondit entre tel centimètre
et tel centimètre.
Et donc, je souhaitais avoir les balles fabriquées la même semaine que celles de Roland-Garros.
Ça va jusque-là, dites donc.
Oui, c'est peut-être un peu maniaque, mais ça me permet d'être droit dans mes bottes quand je dis je suis la meilleure préparation à Roland-Garros.
C'est drôle, je me souviens, alors, tout jeune joueur amateur, enfantin, complètement, j'avais fait un stage chez votre ami Pierre Barthès au Cap d'Agde, on était tous admiratifs, nous avait un peu pris à part, jeune stagiaire, on avait 15 ans, et j'avais été très frappé par le fait qu'il avait dit à l'époque, un bon joueur peut jouer presque avec n'importe quelle raquette, mais pas avec n'importe quelle balle. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, enfin, Pierre était quand même un grand gourou, hein. Il était un homme exceptionnel, c'est un ami cher, et qui m'a beaucoup appris, et que j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer tôt. Mais il aimait bien jouer avec sa grande raquette, il avait une raquette géante, pour montrer que le tennis était un jeu de construction de points, et que la frappe, l'effet, tout ça, c'était secondaire. Il avait partiellement raison, mais pas totalement.
Vous êtes tolérant. Le tennis féminin français a eu de belles et de grandes heures. La plus récente, si j'ose dire, ça fait quand même déjà 12 ans, c'était à Wimbledon en 2013, et c'est la vainqueur qui en parle.
Ouais. Quand je ferme les yeux, le souvenir le plus marquant pour moi, c'est quand il y a la juge-arbitre, tu le sais, qui vient te récupérer dans les vestiaires et qui t'amène sur le terrain. Et je me rappelle avoir pris mon sac, l'avoir mis sur mes épaules. On te donne un bouquet de fleurs puisque c'est le jour de la finale. Je marche devant, j'ai une caméra qui te suit, en espèce de travelling comme ça, qui te suit sur tout le moment. Et de m'être dit à chaque pas, je vais gagner ce match, je vais gagner ce match, je vais gagner ce match. Et je me répétais en boucle, je vais gagner ce match, je vais gagner ce match. Je voulais absolument partir en première dans le couloir pour pas avoir l'état psychologique d'être derrière et de te dire, t'es derrière, tu suis quelqu'un. Je voulais être le leader de ce moment-là. Je me présente sur la ligne de service. À gauche, je regarde Amé, qui est dans la boxe, qui est très sereine. Je regarde mon papa. Et en fait, quand j'étais petite, chaque entraînement, je devais les finir en servant des services dans des zones, comme tout le monde a quasiment fait. Mais moi, c'était à chaque entraînement et je devais en mettre 10 dans la zone extérieure. Et ça, c'est le plus difficile quand tu es droitier. Parce qu'on passait au-dessus du filet, bien précis, la zone était assez petite. Donc je regarde mon PA, je dis, voilà, on va terminer le practice et en même temps on va gagner Wim. Et donc je lance mon mouvement et je serre pile sur la ligne et je vois la craie qui monte. Et là je me dis, j'ai gagné Wim. Et c'était un moment extraordinaire.
Marion Bartoli, donc il gagne Wimbledon en 2013, ça avait un peu surpris beaucoup de monde, mais elle l'a fait, elle l'a fait.
Oui, elle l'a fait et ça marquera l'histoire et c'est pour elle, c'est son...
Bien sûr.
Ouais.
C'est son achievement, comme disait...
Ouais. Ouais.
Est-ce que parfois, pardon pour une question un peu naïve, est-ce que parfois vous jalousez, entre guillemets, ceux qui n'étaient pas si loin de vous, vos compagnons, qui ont réussi cette chose-là et que vous n'avez pas connu, ce plaisir suprême d'un grand titre ?
J'en ai rêvé, mais j'en ai jamais fait de cauchemar, donc... mais comme tous les joueurs, non, jalousé, non, sûrement pas, jamais. Non.
Oui, le mot était malvenu, ouais. Je veux dire, envié peut-être.
Ouais. Bon, oui, envier, oui.
Vous pensez que quand on a connu ça, ce Graal suprême, ça change la vie des gens ?
Bah, sans aucun doute, ça change la vie des gens. La difficulté, c'est de savoir comment on reste soi-même, alors que tout le monde vous voit d'une autre façon.
Elle s'est arrêtée juste après, d'ailleurs, elle. Spectacle.
Oui, c'est pour moi une énigme encore aujourd'hui. Je connais pas bien Marion, mais on a eu l'occasion de se parler, et on se croise et on essaye, mais j'ai jamais approfondi ce qu'elle a ressenti après, après cette victoire, le fait de dire aussi vite « j'arrête ma carrière » m'a paru irréel, pour pas dire autre chose. Mais j'ai trouvé ça stupide.
Oui, elle n'a pas capitalisé sur ce grand moment.
Oui, alors qu'il y avait un tas de choses à faire encore. Mmh. Mais pour quelqu'un de normal, elle avait choisi sa voie, c'est respectable.
Oui, c'est quelqu'un de très intelligent qui a une vision un peu particulière, c'est la sienne, en fait, ouais. On comprend pas toujours, mais ça la regarde, ouais. En effet. Est-ce que le tournoi féminin de Strasbourg que vous dirigez, vous l'avez dit, vous prend 50 semaines par an, est-ce qu'une journée moyenne de vous pendant le tournoi, comment se passe-t-elle, Denis Neijlen?
Bon, elle démarre très tôt, je suis généralement vers 6h, 6h30 sur le site, je veux voir comment, ce qui s'est passé dans la nuit. D'abord regarder en faisant le tour du site s'il n'y a pas eu de problème de sécurité, donc je parle avec les agents de sécurité, et puis je regarde les cours, et je parle aussi avec le responsable de l'entretien des terrains pour savoir s'il a plu, si les cours ont été protégés correctement, et savoir quel travail il va faire, plus particulièrement sur le central où les matchs commencent à partir de 10h. Donc ça fait... Et puis ensuite, je vais dans mon bureau, qui est un squash récupéré, où j'ai mis des bureaux pour pouvoir travailler avec deux autres collaborateurs, associés et collaboratrices. Et on commence à répartir un peu les missions. Je vois le superviseur vers 9h, 10h, quand il arrive, pour savoir si... la programmation qu'il m'a proposée la veille, que j'ai acceptée ou pas, mais qui a été définie, reste... Il n'y a pas eu de problème de joueurs ou de coachs qui ont appelé pour... Donc voilà, je vérifie tout ça, je parle peu aux arbitres, parce que de plus en plus j'ai des robots en face de moi. Pour la première année, on n'avait pas d'arbitre ligne, cette année à Strasbourg. Alors, est-ce que je trouve ça bien? Je me suis battu contre pendant 2 ans, parce que pour moi, un juge de chaise fait partie du spectacle.
Je trouve aussi.
Que le joueur qui râle contre un arbitre, qui lui crache dessus, fait partie du spectacle.
C'est pas tous les jours non plus.
Je dis pas que c'est bien, je dis que ça fait partie du spectacle. Et que toutes ces contestations sont dans le sport, dans la contestation des règles permanentes et dans le respect après de l'arbitre. Donc, j'étais pas favorable. J'étais pas favorable parce que je pense aussi que en France, on est un pays particulier par rapport aux autres pays mondiaux. On a une école de formation des arbitres qui est extrêmement forte. Pourquoi? Parce qu'on a 8000 clubs ou 10000 clubs en France, qu'il y a des championnats interclubs, que chaque championnat interclub, quand vous avez 12, 14 ans, vous dites, tiens, tu veux pas aller arbitrer, monte sur la chaise. Donc, on apprend à arbitrer très tôt, et puis certains vont plus loin, ils arbitrent des événements nationaux, puis des événements internationaux, ils passent leur carte d'arbitre internationaux, certains en font un métier. Donc je trouvais ça un peu dommage et regrettable qu'on perde cette idée-là. D'accord. Maintenant, on nous l'a imposé, donc il y a un moment...
Mais Roland-Garros ne le fait pas pour l'instant.
Mais Roland-Garros ne le fait pas, mais tous les tournois de la WTA... la WTA a décidé pour eux d'imposer de l'arbitrage de ligne électronique. Et donc, pendant quelques semaines, on a fait des tests avec différents opérateurs, dont un a été choisi pour ce qui concerne Strasbourg, c'est Bolt 6. Et en fait, il y a des caméras en face de chaque ligne et il n'y a plus de juge de ligne, il ne reste qu'un seul arbitre des juges de chaise. Alors il faut savoir quand même qu'il peut y avoir encore des contestations, et que les arbitres de ligne, j'en avais 12 sur le court, ils sont remplacés par 6 qui sont, qu'on appelle des match assistants, qui sont dans un Algeco derrière le central, devant des ordinateurs.
Ah oui, c'est ça.
Pour vérifier.
Comme la VAR, en quelque sorte.
Et c'est comme la VAR, exactement. D'accord. Mais ce qui est amusant, ce qui m'a le plus amusé cette année, et que je ne savais pas, mais je ne l'avais pas fait attention, c'est que chaque ligne a une voix.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que vous avez l'impression, si vous ne regardez pas, qu'il y a un arbitre de chaise. Parce que vous avez une voix de femme pour la ligne de fond de cour, et vous avez une voix d'homme, une voix grave sur la ligne du service, et ça c'est un robot, En fait, cette voix, elle est totalement digitale. Oui, il y a quelque chose d'effrayant et en même temps, je me suis permis de dire, quand j'ai fait mon discours de clôture, j'ai dit, je remercie les arbitres et surtout les robots, vous avez fait du super boulot cette année.
Durant cette semaine de Strasbourg, qui est l'accomplissement, en fin de compte, du travail accompli pendant un an, vous êtes tendu ou vous êtes heureux?
Ah non, je suis heureux. Non, j'ai la chance, à mon âge, de pouvoir continuer à travailler dans ce qui me passionne. Les choses ont évolué, j'ai fait tous les métiers du tennis. Aujourd'hui, je suis directeur de tournoi, d'un tournoi international qui est un grand tournoi. C'est une chance exceptionnelle, donc oui, je me lève tous les matins avec la banane.
Le tennis, c'est un sport de tradition. On a rendu hommage aux mousquetaires, pas les actuels, ceux de Cochet, Lacoste, Brugnon, il y a quelques années, avec des statues. Voilà l'événement où ça s'était produit.
Qui pouvait mieux incarner l'amour du tennis que Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet et René Lacoste? Ces quatre tennismen de légende ont écrit la plus belle page de l'histoire du tennis français. Baptisés les quatre mousquetaires, ils ont conquis la Coupe Davis en 1927, avant de défendre le prestigieux trophée jusqu'en 1932. Les vicissitudes de la vie ont séparé ces quatre merveilleux champions. Jacques Brugnon et Henri Cochet ont disparu. Tous seront désormais immortalisés au stade Roland-Garros. Une place à leur nom a été édifiée afin de récompenser l'ensemble de leur œuvre. Des statues les représentant, réalisées par le sculpteur italien Vito Tongiani, ont été érigées. Pour souligner l'importance de ces quatre joueurs dans le monde du tennis, Philippe Châtrier a déclaré qu'il lui a paru essentiel que les centaines de milliers de spectateurs qui viennent du monde entier célébrer le tournoi sachent ce qu'ils doivent à nos quatre champions. Un vibrant hommage aux mousquetaires sans lesquels le stade Roland-Garros n'existerait pas. Pour mieux se souvenir, ils trôneront pour toujours dans le temple du tennis.
Et oui, qui va à Roland-Garros voit ces fameuses statues de Lacoste, Cochet, Borotra et Brugnon, qu'on oublie un peu parce qu'ils ne jouaient pas ou rarement le simple. Et Roland-Garros a été construit pour eux à l'époque de la Coupe Davis des années 29-30, c'est ça? C'est pour eux que ça a été fait?
Oui, tout à fait. Ça avait été fait parce que la première année, les Français avaient gagné, je crois, contre les Américains. Donc, comme il y avait ce système de challenge round,
ils
devaient les accueillir en France. Ça s'est fait d'abord dans un club, je crois que le Racing, et ensuite le Stade français ont accueilli aussi la Coupe Davis, parce qu'il fallait prendre le temps de construire un stade, et ce stade s'est construit Porte d'Auteuil, il est toujours là, et c'est tant mieux.
Bien sûr. Denis Nejlen, vous êtes forcément l'observateur du tennis féminin encore plus que masculin. Je vais vous demander un exercice rigolo et inéluctable. Nous sommes maintenant en fin de première semaine. Allez, qui gagne le tournoi masculin et féminin pour vous?
Ma favorite a perdu ce matin, donc c'était Djokovic.
Ah oui, qui a perdu contre Osaka.
Oui, qui a perdu contre Osaka. Non, je n'ai pas de favorite.
Sabalenka, non, pas forcément.
Elle est la meilleure, mais elle est fragile sur terre encore. Donc,
Gauff.
Ce sont les deux meilleurs, mais c'est facile à dire. Tout le monde, il suffit de lire les journaux pour vous dire que.
On regarde le classement. Est-ce que Diane Parry peut faire un parcours à la Loïs Boisson?
Oui. Oui. Sans aucun doute. Maintenant, elle peut perdre au prochain tour. Le tennis féminin, enfin, comme le tennis masculin, à ce niveau-là, il y a très peu de différence. Il y a quelques super champions qui vont au bout. Mais c'est de moins en moins le cas. Et d'ailleurs, on le voit cette année, l'ère des grands, Elkaz, Sinner qui perd d'une façon particulière.
Pour une fois.
Pour une fois, oui. Donc, non, personne n'est à l'abri. Et c'est ce qui fait l'attrait de ce jeu. Je trouve qu'on va voir un match en se disant, tiens, moi, je préférais que l'un tel gagne que l'autre.
Bien sûr.
Mais on voit des bouleversements.
Et chez les messieurs, le tableau est déserté, mais comme jamais. Je crois qu'il ne reste plus que deux des 10 premiers, qui sont Zverev et Auger Aliassine. Je crois qu'il n'y a plus qu'eux. Ouais. Zverev va enfin gagner?
J'aimerais pour lui, parce que je trouve qu'il mérite. Mais non, il est pas pour moi, il n'est pas favori. Ça sera un autre. Ça sera un des inconnus là, qui...
Vous pensez qui ça peut être un 50e mondial qui gagne? C'est possible.
C'est possible.
Je crois que Kuerten était très mal placé quand il avait gagné la première fois.
Ouais.
Donc ça, il peut faire quelqu'un peut faire ça.
Ouais.
Et ce jeune Kwame, alors, est-ce qu'il y a de quoi s'enflammer vraiment ou bien il faut rester calme?
Non, il faut rester calme et s'enflammer en même temps parce qu'il le mérite. Il le mérite. Il a encore des progrès à faire et c'est ce que je crois très intéressant. Mais il a une bonne attitude. Il a Il a un jeu assez complet. Je pense qu'il peut encore progresser au service, en particulier. Et il a plein de même une technique qui peut encore légèrement progresser. Mais je trouve qu'il a un beau caractère. Et c'est très important, quand on est jeune comme ça, d'être aussi serein, d'être aussi lucide. Et d'avoir cette capacité, comme il l'a démontré dans son dernier match, dans la tension extrême, de rester le meilleur. Non, il a du talent.
826e, je crois, en début d'année, au 1er janvier, et là, il va rentrer dans le top 100, j'imagine, dans pas très longtemps,
ouais.
et aller beaucoup plus haut, vous le pensez aussi.
Oui, je pense qu'il l'a, mais maintenant, il faut toujours faire attention,
bien
parce
sûr.
Que on ne monte pas de la 800e à la première, il y a des escaliers, il y a des marches à passer, il y a des moments où on recule un peu, il faut digérer tout ça, donc il faut être bien entouré aussi, mais je ne le connais pas assez bien pour vous dire ce que j'en pense vraiment. Quoi.
Il y a tellement longtemps que les Français attendent, depuis 83, un grand chelem, que le petit danger pour lui, c'est peut-être que brusquement une pression s'abatte sur lui en disant c'est lui qui va être le prochain à gagner, alors que ce n'est pas gagné, ce n'est pas fait.
Non, absolument pas. Je pense que ce serait une erreur de penser ce genre de choses. Il n'a pas encore montré qu'il avait la capacité de gagner un grand chelem. Il a gagné deux grands matchs. Faut mesurer.
Mais je me souviens que Richard Gasquet, qui était considéré à 8 ans comme un futur génie, qui mène une carrière formidable d'ailleurs, raconte souvent à quel point ça a pesé sur lui, l'espoir du peuple français.
Mais je trouve que je parlais du tennis féminin et de Louise Boisson, je pense qu'on a trop parlé d'elle, on lui a mis trop de pression. Alors elle dit que c'est pas vraiment de la pression et tout, moi je pense que on l'a surmédiatisée par rapport à sa capacité réelle, il fallait lui foutre la paix et la laisser grandir. Elle a encore le temps, elle peut le faire.
Est-ce qu'un grand champion, la question est volontairement banale et provocatrice à la fois, est-ce qu'un grand champion est forcément quelqu'un de très intelligent ?
Non. Non. Non, ça c'est une légende.
J'aime bien, moi, vous êtes vraiment direct, vous.
Non, vous savez, il y a savoir formidablement bien taper dans la balle, savoir connaître son corps et résister à l'adversité ne fait pas de vous quelqu'un d'intelligent.
Parfait. On va écouter un dernier morceau ou un autre musique de film de sport. Eye of the Tiger, c'était pour Rocky, c'est le Stallone. Voilà, on va se quitter, on va parler de tennis et ça pourrait être très long. Denis Desgenes, qui est un interlocuteur à la fois disert et très tranché, très franc. Vous m'apprenez juste avant qu'on se quitte que vous vous êtes entraîné avec McEnroe, Evilas et Borg. Je ne sais pas, vous avez, vous avez fait affronter ces gens-là à l'entraînement.
Oui, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais très ami avec Patrice Dominguez, on a partagé un appartement et donc les entraîneurs des grands champions, quand ils venaient à Paris, le savaient. Donc vous aviez Lennart Bergelin, qui était l'entraîneur de Borg, ben, qui nous appelait en lui disant « Mais dans 3 jours, je suis à Paris, Borg est là pendant 3 jours, est-ce que toi, Patrice, tu peux jouer 3 heures après-demain et toi, Denis, tu peux jouer 3 heures l'après-midi » parce qu'ils s'entraînaient. Donc voilà, donc, on était les sparring partners idéaux et c'était pareil pour Borg et pour Villas. C'était Thiriac qui nous disait « Tu peux jouer Villas ». Bah, Borg, c'était moins longtemps que Villas. Villas, il jouait 6 heures d'entraînement par jour. Borg, c'était plutôt 4, donc ça m'en faisait faire
bah,
que
c'est
2 heures.
C'est des beaux souvenirs. Et ça, le tennis continue dans votre vie, puisque vous êtes toujours le patron de l'International de Strasbourg, juste avant Langaros. Donc rendez-vous l'année prochaine là-bas. Ouais. Merci beaucoup, Denis Desgenes.
Merci.
C'était un plaisir de vous recevoir. À bientôt sur Radio Courtoisie. La semaine prochaine, on parlera des écrivains français en Asie, un autre monde. Merci.
Vous venez d'entendre Les Neiges du Kilimandjaro, dirigé par Marc Bessou, diffusé en direct sur Radio Courtoisie le 30 mai 2026, de 18h à 19h30 et réalisé par Axel. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.